France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après notre émission très agitée avec l'incroyable public du Festival du Livre de Paris, émission que vous pouvez retrouver en podcast balado-diffusion, retour en studio avec un programme très éclectique pour tous les publics. Voici le sommaire de ce nouveau voyage francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Nous sommes avec le grand écrivain sénégalais multiprimé Boubacar Boris Diop. Son nouveau roman évoque le naufrage d'un navire sénégalais en 2002 qui avait fait plus de morts que le Titanic, des parcours de vie et une critique acerbe de la corruption dans les médias et la politique. Anthony Delon est aussi avec nous pour une fiction qui explore l'emprise amoureuse et les relations parentales. Bonjour Anthony Delon.
Bonjour.
Merci pour votre fidélité à la librairie francophone. Nous parlerons de ce premier roman et uniquement de votre roman. Vous vous sentez comment dans la peau d'un écrivain, vous ?
Je préfère auteur. Ouais. J'ai trop de respect pour les écrivains.
Et alors, dans la peau d'un auteur ?
Je trouve que c'est assez complémentaire avec ce que je fais.
Ouais.
Voilà, l'acteur, le scénariste, l'auteur, voilà, tout ça se complète.
Ça vous rend heureux, en tout cas ?
Oui, ça me rend heureux, bien sûr.
Bon, merci d'être avec nous. Imaginez un chat amoureux d'un poisson. C'est impossible, et pourtant en amour, tout est possible. C'est le thème d'une bande dessinée pour les enfants qui connaît un grand succès en Suisse. Jean Blaise fait sensation en librairie. Ses auteurs Émilie Boré et Vincent Di Silvestro sont sur notre plateau. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. C'est l'événement Strasbourg, capitale mondiale du livre, UNESCO 2024, qui s'ouvrira mardi. L'un des parrains de cette opération est avec nous à distance. Bonjour Laurent Godet.
Bonjour Emmanuel.
Quel est le principe de ce label Capitale Mondiale du Livre ? Expliquez-nous.
Eh ben c'est un moment, de faire événement autour de la lecture. Une ville s'empare de ce thème et met à la fête les lectures, si je puis dire, dans tous les sens. C'est ce qui est d'ailleurs, je pense, important de dire qu'on n'est pas obligé de lire dans une bibliothèque, on peut lire où on veut, dans un théâtre, chez soi, qu'il y a mille manières de lire, mille supports pour lire. C'est ce qu'on va essayer de célébrer, ce que les Strasbourgeois et tout le monde vont essayer de célébrer à Strasbourg.
C'est le principe. Le 23 avril est d'ailleurs la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est la date choisie pour lancer cet événement. En 2023, la capitale était Accra au Ghana. Que va-t-il se passer à Strasbourg ? Avez-vous quelques détails sur le programme ?
Il y a une série, alors ça dure un an, hein, en fait, c'est un relais de ville à ville comme ça, donc, ça fait une vingtaine d'années que les villes se passent le relais, donc vous l'avez dit, il faut bien dire aux auditeurs, il ne s'agit pas d'un événement français ou européen, c'est mondial, ça a commencé avec Madrid et puis il y a eu des tas et des tas de villes, la prochaine a été dénommée d'ailleurs, ce sera Rio, donc pendant un an, je ne connais pas le programme de toute l'année à venir,
non, c'est sûr.
Mais il y a énormément d'auteurs qui vont passer et de l'animation dans les ateliers. Il s'agit d'essayer de susciter la lecture partout, soit par des conférences, soit par des rencontres, soit par des ateliers, et de redire à quel point elle est centrale, non seulement dans la formation des jeunes gens, mais aussi de chacun, des moins jeunes aussi.
Voilà, c'est le but, effectivement, valoriser la lecture et l'égalité des chances pour lutter contre l'illettrisme. Et la ville peut profiter de ce label pendant 10 ans, figurez-vous. Vous êtes battu, vous aussi, Laurent Godet, toute votre vie d'écrivain pour justement la valorisation de la lecture et contre les inégalités.
Vous avez raison d'utiliser le mot bataille. Il y a une bataille, c'est pour ça qu'un événement comme ça est important, parce que c'est une manière de mettre un coup d'éclairage sur la lecture, d'en parler, de faire événement, de célébrer quelque chose. Il y a une bataille contre le renoncement, si je puis dire. On parle beaucoup des jeunes. Il y a eu un rapport, il n'y a pas très longtemps, du CNL, du Centre National du Livre, sur la lecture chez les jeunes. Mais on devrait parler de tout le monde, en fait. On le voit bien, chacun dans nos vies, il est de plus en plus difficile de sanctuariser une demi-heure, une heure, pour plonger dans un livre. Il y a un chiffre qui est hallucinant, je crois que quasiment 50% des jeunes lecteurs lisent en faisant quelque chose d'autre, en fait. Donc rien que de se poser dans un fauteuil ou un canapé et de dire, pendant le temps que j'ai décidé, c'est-à-dire peut-être 20 minutes, c'est déjà ça, pendant 20 minutes, je ne fais que ça. Je plonge dans ce que je suis en train de lire, c'est déjà une victoire. Donc ça me semble très important. Et effectivement, vous avez raison, l'enjeu central, c'est d'élargir au maximum ce cercle-là, bien sûr.
C'est la première fois qu'une ville française est désignée par l'UNESCO depuis la création de ce label en 2011. 2001 à Madrid, vous l'avez dit. Quel va être votre rôle, Laurent Godet, là, dans les jours à venir?
Alors moi, très concrètement, je commence par une intervention au Théâtre National de Strasbourg. C'était très important pour moi de délocaliser un petit peu et de dire que le théâtre fait aussi partie des outils qui peuvent promouvoir la lecture, parce que dans mon cas, ça a commencé comme ça, non seulement par le théâtre, mais par le Théâtre National de Strasbourg. C'est un joli clin d'œil. Donc je vais y faire une lecture d'un de mes textes et voilà, c'est aussi une manière de dire que la lecture à voix haute fait partie des moments de partage où on peut éprouver du plaisir à entrer dans un texte.
Tout à fait. Merci beaucoup Laurent Godet. Strasbourg, capitale mondiale du livre, UNESCO 2024, s'ouvre mardi et se tient jusqu'à la fin de l'année. Si vous avez besoin de la librairie francophone, Laurent, on est là, hein, vous nous direz.
Mais merci à vous et bonne lecture à tous.
Bonne lecture. Vous serez avec nous en studio la semaine prochaine pour une pièce de théâtre qui vient de paraître chez Actes Sud. Double dose de Laurent Godet, donc sur deux semaine. À la semaine prochaine, Laurent.
Au revoir.
À bientôt. Voici nos libraires. Et quatre libraires sont avec nous comme chaque semaine. Bonjour Nathalie Clairin.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique, libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine. Au Québec, c'est Josiane Letourneau de la librairie Pauline à Montréal qui est là. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Alexandre Dimitrievitch.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève, vous, dans la librairie Delphica. Et vous représentez donc la Suisse. Vous vous installez en studio, vous êtes très en retard, paraît-il.
Bonjour. Oui, c'est ça, j'y suis.
Bonjour la France, bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes fidèle au poste, tout va bien?
Ah oui, tout va bien.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard. Et on part au Sénégal avec Boubacar Boris Diop. Bonjour Boubacar, Boris Diop.
Bonjour.
Sur cette musique de Baba Mal, que l'on connaît bien dans cette émission, qui était venue jouer ici dans ce studio. Une musique que vous citez.
Que j'évoque dans le roman.
Voilà, vous le citez dans les premières pages du roman.
Voilà.
Vous êtes romancier et essayiste, lauréat en 2022 du prix international de littérature Neustadt, sorte de Nobel américain. Votre nouveau roman, Un tombeau pour Kinégadjo, évoque un terrible naufrage dont nous allons parler, mais il évoque aussi un pays, le Sénégal, en proie à la corruption. Et votre personnage, Kiné, dit comprendre la petite corruption dans la police, par exemple, car le modèle est national et tout le monde tente de s'en sortir.
Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs bien pour cette raison que nous avons un nouveau régime, hein. J'allais dire gouvernement, un nouveau régime. Deux jeunes, l'un a 48 ans, l'autre 44 ans, le président.
Et vous parlez de Bassirou
Diomaye Faye. Et bon, la partie de leur programme qui a vraiment sensibilisé l'électorat, c'était la promesse de lutte contre la corruption. Mmh.
Alors effectivement, le nouveau président du Sénégal,
la corruption des élites essentiellement, oui.
A été élu au premier tour des élections présidentielles très récemment. Il dit vouloir restaurer la démocratie, limiter les pouvoirs du président, lutter contre la corruption, garantir aussi la sécurité alimentaire, redevenir pleinement un pays souverain et faire une réforme monétaire. C'est beaucoup, voilà. On y croit ou pas?
Oui, moi je ne lui en demande pas tant. Je pense que bon, un homme politique c'est normal. Hein. C'est même pas au fond de la démagogie pure et simple. On dit, voici mon programme, on promet le plus que l'on peut.
Ouais.
Mais moi, ça me suffirait une certaine moralisation de la vie politique.
Au moins ça, oui.
Et puis tout ce qui peut empêcher les dérives autocratiques, quoi.
Alors Cédric, vous en parlez dans votre roman, oui. Boubacar Boris Diop, les enfants des rues notamment, vous les évoquez à plusieurs reprises comme ça, c'est un soupçon mais c'est important parce que ils sont très nombreux à Dakar, mendiants, maltraités, abusés sexuellement parfois. Le Sénégal d'aujourd'hui a-t-il pris la mesure de ce drame dans ces rues avec les enfants?
Ben, on ne peut que l'espérer, mais ce n'est pas récent. La critique est faite. Au fond, c'est un phénomène de société qui est critiqué. Il date de quand ? Ben, je pense que depuis l'indépendance, on a ça. Et au fil des ans, plus le pays devient pauvre et plus il y a de jeunes dans la rue qui sont exploités dans des écoles coraniques, qui sont battus. On les oblige à aller mendier. Oui, à aller mendier. Hein. Et le soir, ils doivent rapporter un peu d'argent, un minimum. Et s'ils ne le font pas, ils sont battus, ben, ils sont maltraités. Je raconte d'ailleurs l'histoire de ce foyer qui a pris feu. C'est une histoire vraie. Hein. J'ai pas inventé ça. 9 gamins ont péri en quelques minutes. Ça a fait du bruit, et puis on a vite oublié.
Et on oublie vite.
Personne n'a été considéré comme coupable, quoi.
Alors c'est ce qui révolte d'ailleurs votre personnage, vos personnages, notamment Kinega Jo, qui est une femme libre dans un pays entravé. Elle a choisi de vendre son corps pour survivre et assumer sa condition de prostituée. Ce qui l'intéresse, elle, c'est d'écrire. Et elle est libre grâce à ça, grâce à l'écriture et grâce à la poésie.
Oui, les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'elle est... En fait, elle est d'une famille très pauvre. Elle voit sa mère souffrir. Il n'y a pas de quoi vivre, quoi, dans la famille. Et elle décide de vendre son corps, non seulement pour aider sa mère, qui refuse, hein. Il faut bien le préciser.
Et qui a honte d'elle, d'ailleurs.
Oh oui, dès qu'elle a compris, elle a dit, je ne veux pas que cet argent entre dans la maison. Et elle-même, bon, voilà. Justement, c'est la condition de sa liberté, quoi.
Voilà. Et elle disparaît, cette femme-là. Elle a disparu une nuit de septembre 2002. Cette nuit-là, au large de la Gambie, un ferry sénégalais qui transportait près de 2000 personnes au lieu de 580, le maximum prévu à bord, s'est retourné, faisant 1884 morts. C'est une histoire vraie. Et Kiné en faisait partie dans votre histoire. C'est la pire tragédie sur un bateau, sur un ferry. Plus de morts que le Titanic, dit-on.
Plus de morts que le Titanic. C'est d'autant plus impressionnant que le Sénégal n'a jamais été une puissance maritime. On avait que ce petit bateau de moins de 600 places. Hein, et on se débrouille pour avoir près de 2000 morts, plus que le Titanic.
Et vous avez été touché dans votre vie personnelle, je crois.
Dans ma vie personnelle, parce que j'hébergeais un étudiant. Il m'appelle le matin, le jeudi matin. Il était parti en vacances, quoi, en Casamance. Pour me dire, tonton, je prends le
ferry
pour rentrer ce soir. Ben, je lui dis à demain. Il s'appelait Hyacinthe. Et c'était notre dernière conversation parce qu'il est, ben, il a péri, quoi. Et très rapidement, d'ailleurs, j'ai publié un article.
Dans le monde diplomatique.
Dans le monde diplo, lettre à un ami sur le naufrage du Djola, et ça préparait le roman.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors son ami Njemé, journaliste, elle va chercher le corps, évidemment, elle ne le trouvera pas comme vous. Hein, comme vous
moi,
avez
j'ai
fait.
Cherché le corps de Hyacinthe, voilà.
Elle est journaliste pour une radio populaire du Sénégal, et elle va raconter l'histoire de Kiné. Mais ce n'est pas simple parce qu'il y a des zones d'ombre, et la vie de Kiné est chargée de légendes. Et vous utilisez finalement la tradition orale que l'on connaît bien avec ses contes et légendes africaines, car peu à peu, au fil de votre récit, on découvre de petites histoires avec des parcours de vie. Et tous ces parcours de vie font ce qu'elle est, cette femme-là.
Oui, oui. Moi, je suis devenu écrivain à cause des contes que j'ai entendus pendant mon enfance. C'est vrai. En fait, j'ai eu deux portes d'entrée. Il y avait la bibliothèque de mon père, qui était, bon voilà, un fonctionnaire d'administration coloniale, qui aimait la langue française. Et puis, il y avait une grande pièce où il n'y avait que des livres, des centaines de livres. Et je lisais beaucoup. Mais en même temps, le soir, j'écoutais les contes de ma mère. Elle n'avait jamais été à l'école. Hein. Elle faisait ses contes en Wolof, et ça m'impressionnait beaucoup. Autant, sinon plus que les livres, quoi. Et c'est pourquoi, au fond, je me suis mis à écrire dans les deux langues. D'abord en français, et puis progressivement en wolof.
Oui. D'ailleurs, ce livre a été d'abord écrit en wolof.
D'abord,
oui. Et vous l'avez traduit vous-même en français.
Tout à fait.
On va voir du côté de nos libraires qui ont lu votre roman, Boubacar Boris Diop, avec la Suisse, tiens, Alexandre Dimitrievitch.
Oui, je dois dire que c'est un livre très vivant et très très convaincant. J'ai tout de suite été interpellé par votre sens de la narration. Les tableaux s'enchaînent avec tellement de naturel, c'est vraiment impressionnant. Quant au cœur de votre livre, il nous rappelle combien les artistes en marge de la société peuvent nous en apprendre davantage sur nous. Et il nous parle aussi de la fascination que ces mêmes artistes exercent sur celles et ceux qui les entourent. Vraiment un grand, grand bravo.
Voilà.
Merci.
Grand bravo de la Suisse.
Ça me touche.
Alors, on va voir du côté de la Belgique, comment ça se passe. Nathalie Clairin, grand bravo ou pas du tout?
Oui, moi aussi, mais oui. Je dis attention, dans le sens où il faut entrer dans votre livre comme dans un mausolée. Donc, c'est quelque chose de sacré. Et je l'ai lu en ayant en tête le contexte, et j'ai été complètement admirative de votre imagination qui est puissante. Alors, même si parfois j'étais, je dois bien le reconnaître, un peu perdue dans le foisonnement de nos propres, d'une culture qui m'est inconnue, mais vous êtes arrivée par une multitude de détails à me faire vraiment aimer vos personnages, que j'ai trouvé très authentiques et très vivants.
C'est très foisonnant comme histoire, effectivement, Boubacar Boris Diop.
Oui, oui. En fait, j'ai envoyé juste hier matin un message à mon éditeur en lui disant « Bon, ce livre marche bien, les gens l'aiment, mais en fait, je suis surpris. » Parce que de tout, c'est mon 8e, 9e livre, hein,
oui.
De tous mes livres, c'est celui dont j'ai le plus douté.
Ah oui, pourquoi?
Parce que l'histoire, elle est sénégalaise.
Oui, hein, oui.
Qu'au Sénégal, bon, ça marche, ça ne m'étonne pas. Mm-hmm. Les turpitudes de nos politiciens, je me disais, bon, voilà, au-delà de mon pays, personne vraiment ne s'y arrêterait. Bon, ben, le Diola, d'accord, c'est une tragédie.
Oui.
Mais enfin, il y a d'autres tragédies. Je veux dire que... Et puis ça vient du Wolof. J'ai eu tellement de mal à traduire certains passages. Je me suis dit, mais c'est trop ma culture, c'est trop enraciné.
Oui, mais vous savez écrire,
si français,
Boubacar, voilà. Vous savez écrire, vous êtes un écrivain brillant, vous le savez ça.
Oh, non, mais vous voulez que je vous réponde oui?
Mais oui, parce que vous le méritez en plus.
Ouais.
Non mais c'est vrai, vous êtes une référence dans le monde littéraire, en Afrique et partout dans la francophonie.
Ouais. Merci.
Non, mais c'est vrai.
Ouais,
bon, on va voir.
Je ne l'ai pas confirmé. Hein.
Je sais pas. On va voir le Canada. Peut-être qu'elle n'aime pas votre livre. José Netourneau.
Ben voilà.
Allez-y.
Ouais.
Josiane.
Un pays.
Non, je ne dirais jamais ça. Je dirais jamais ça. Par contre, je souscris à l'expérience de Nathalie, puis un peu ce que vous dites. Ça me rassure parce que j'ai eu un peu peur en amorçant le roman. J'ai eu du mal à y trouver mon chemin de lectrice, mais je sais maintenant que ça aurait été une terrible erreur d'abandonner ma lecture parce que c'est un roman passionnant et éloquent, intelligemment écrit et construit, qui m'a permis, je le crois en fait, je l'espère vraiment, de mieux comprendre, sinon de mieux connaître le Sénégal actuel et ses défis. Je trouve, Boubacar Boris Diop, que votre livre, c'est une porte d'entrée magistrale à la littérature sénégalaise. C'est un livre d'une richesse rare qui doit absolument être lu.
Félicitations, Boubacar, vous avez séduit nos libraires.
Merci beaucoup.
Alors, c'est vrai que vous racontez le cynisme politique avec un certain personnage, le frère de Kiné, qui va se lancer en politique, qui a priori n'a rien pour faire de la politique, et il va y arriver quand même, on va pas tout raconter. Son histoire, son parcours est incroyable, et vous dénoncez aussi le pouvoir des médias et de certains patrons de presse qui font chanter les politiques au Sénégal. Leur pouvoir, avec leur radio, leur journal, leur permet de s'enrichir, et surtout... au passage, de dissimuler des informations.
Voilà. J'aime pas beaucoup les romans à clé, mais certains personnages au Sénégal seront aisément identifiables.
Ah, ils sont reconnaissables.
Ah ben oui, un journaliste devenu milliardaire.
Oui,
hein.
Oui.
Voilà, qui a des immeubles partout.
Non, c'est fou.
Exactement comme je dis. Hein.
Oui.
Et qu'il est devenu juste en faisant chanter les hommes politiques.
Alors qu'ils doivent incarner...
Et les hommes d'affaires.
Ils doivent incarner l'intégrité, une forme de pureté.
Ben oui.
Et la personnalité qui est la plus pure dans votre histoire, c'est une prostituée.
Ouais.
C'est Kiné qui reste une femme intègre. Et malgré tout, elle va être sous l'emprise d'un homme. Elle tombe amoureuse d'un type qui n'est pas séduisant. Il n'a rien pour lui, hein, on va le dire. Elle n'a pas envie de le voir tout nu, c'est ce que vous écrivez.
Elle-même, hein. Elle-même.
Et pourtant, elle est subjuguée. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi cette emprise?
Mais parce que c'est... Elle lui est redevable. de sa formation à la langue wolof, qui lui a au fond révélé son talent de grande de poétesse, quoi. Je pense que c'est cela.
Il l'aide.
Et puis évidemment, elle est sensible à la folie. Il est laid, Tchendou. Il est même répugnant à bien des égards, mais en même temps, c'est un esprit supérieur. C'est un esprit aussi libre que celui de Kiné. Et c'est pourquoi le roman se termine avec ces deux-là. Avec ces deux-là.
Ne racontez pas la fin.
Non, surtout pas.
Et elle dit, cette femme-là, on va terminer avec cette citation, « Nous ne pouvons rien faire lorsque nos émotions nous poignardent dans le dos. »
Oui, c'est ça. Voilà, c'est... ne sait pas trop ce qui lui arrive, ne sait pas trop, au fond, quoi penser, ne sait pas trop, au fond, quelle est la véritable nature de ses émotions. Se laisse justement emporter, quoi, par les vagues. Quoi.
Eh oui. Voilà. Et l'emprise arrive comme ça, on parlera de l'emprise dans un instant, avec Anthony Delon qui vous écoute avec grande attention, hein, Anthony. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Boubacar Boris Diop. Un tombeau pour Kiné Gahadjo est paru aux éditions Philippe Ray. Vous restez avec nous ?
Je reste, merci.
À suivre Anthony Delon pour son premier roman sur l'emprise amoureuse, entre autres. Avant cela, voici le groupe Gwendoline dans la librairie francophone. Français Gwendoline, qui s'est fortement inspiré des années 80, c'est le moins que l'on puisse dire, avec Pignata. La chronique des libraires, première partie, avec un coup de gueule en Suisse. Alexandre Dimitrievitch, vous êtes énervé.
Oui, voilà, moi je me suis lancé dans la lecture du livre « Ce que murmurent les animaux » de l'écrivaine et activiste suisse Virginia Marcus.
Oui.
Un livre paru chez Bayard en ce début d'année. En deux mots, c'est un récit au titre très poétique qui traite de militantisme et plus largement de souffrance animale dans une perspective très très personnelle. Mais bon, à mon grand désespoir, j'ai constaté que le propos s'attardait beaucoup trop sur l'expérience de communication animale que l'autrice entretiendrait avec les animaux de son refuge. C'est peut-être cet axe un petit peu trop magique qui a fini par me perdre malgré l'évocation de quelques actions politiques que je trouvais beaucoup plus à propos.
Bien, ça ne vous a pas plu, ça s'appelle quand même « Ce que murmurent les animaux » aux éditions Bayard. Merci Alexandre, enfin pas merci pour elle. Un coup de cœur au Canada, Josiane Letourneau.
Oui Emmanuel, j'ai remarqué que vous trouvez mes coups de cœur pas très jojo généralement. Alors j'ai pensé à vous.
Oui,
j'aimerais en fait vous proposer la lecture de la BD « Salade de fruits » de Caton. une ouais. maison d'édition que vous aimez beaucoup qui s'appelle Pow Pow.
Ah oui, oui, carrément.
Voilà. Alors, dans Salade de fruits, Caton fait l'étalage de son humour absurde et délirant. Il y a des histoires qui reviennent souvent à propos de bananes congelées. Alors vraiment, si vous avez un coup de mou, Salade de fruits de Caton, c'est un remède miracle.
On y pensera pour ce printemps. Merci Josiane. Salade de fruits aux éditions Pao Pao.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Anthony Delon est avec nous cette semaine. Avant de parler de votre premier roman, Anthony, un petit préambule. Nous ne parlerons pas aujourd'hui des problèmes de la famille Delon autour de votre père qui ne regarde que vous et votre famille. Les médias se sont emparés de cette affaire avec outrance, sans aucune pudeur ni distance. C'est honteux. On n'a pas besoin de connaître tous ces détails sordides. Une fois de plus, c'est une affaire intime. Vous êtes donc avec nous par fidélité, car nous vous avions reçu pour votre récit autobiographique Entre chien et loup qui nous a laissé un très bon souvenir. Nous verrons avec nos libraires si votre premier roman les a séduits. Sachez qu'ils ont lu ce livre en mettant de côté votre nom et tout ce qui y est lié. Cela vous convient, Anthony ?
Ça me va tout à fait.
Allons-y. Alors, dans ce roman, vous racontez la vie de Philippe Wagner, un homme d'une cinquantaine d'années qui a vécu des désillusions amoureuses et qui rencontre une jeune femme d'origine espagnole. Elle s'appelle Luna. Il tombe follement amoureux d'elle, au point de se lier comme jamais, et il évoque une rencontre karmique. Qu'est-ce que c'est une rencontre karmique, Anthony ?
Eh ben, une rencontre karmique, c'est la rencontre de deux âmes sœurs. Moi, je crois aux âmes sœurs, je crois aux vies antérieures. Je pense que on retrouve des gens qu'on a connus dans des vies antérieures, et plus particulièrement des âmes sœurs, pour le meilleur et parfois pour le pire, mais oui, le pire oui. Nous emmène souvent au meilleur aussi.
Alors il a des alertes quand même, parce que le pire va un peu arriver. Il a des alertes sur cette personnalité. Cette jeune femme est très colérique, elle est très jalouse, elle est ambiguë.
Oui, oui. Alors disons que il perçoit quelque chose dans son regard, plus que de la colère, mais quelque chose de, effectivement, d'ambivalent, comme une double personnalité. Mais là, il est déjà dans le déni. Et c'est la question que se pose le personnage. C'est comment est-ce que, si vite, si tôt, et c'est là où cette rencontre d'âme sœur est importante, parce que il y a une reconnaissance. Et dans le cadre de cette histoire, il y a une reconnaissance de leur douleur respectives. Mmh. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas réussi à réaliser dans une vie antérieure, ils vont devoir le réaliser dans celle-ci.
Ouais, ouais.
Mais il y a cette attache. Et donc, cette attache, cet amour, il est tout de suite très, très puissant.
Alors, ils ont des traumatismes tous les deux. Hein. On peut dire les choses. C'est un roman sur l'emprise, mais aussi sur les relations avec la famille, avec les parents, qui ne facilitent pas nos vies personnelles. Anthony Delon, Philippe est entravé par l'emprise paternelle. Ça arrive à beaucoup de familles, ça, à beaucoup d'enfants, d'avoir un parent, une mère ou un père qui est un peu soit envahissant, soit castrateur. C'est ce qu'il vit, votre personnage ? Moi, je l'ai un peu lu comme ça.
En fait, si vous voulez, je dis qu'on est attaché à nos souffrances. Si on parle de dogme ou si on parle de traumatisme de l'enfance, on ne parle pas forcément d'emprise. Moi, je pense que ce sont ces traumatismes, alors cette culpabilité, par exemple, ce sentiment d'abandon, le manque d'amour pour soi, qui font qu'un jour, on peut se retrouver, effectivement, sous une forme d'emprise.
Mais
après,
ce sentiment...
effectivement, il y a des enfants qui sont battus et qui sont sous l'emprise de leurs parents.
Ah, ça peut être une maltraitance psychologique aussi.
Aussi.
Parce que ce sentiment...
pas le cas de Philippe dans l'histoire.
Ce sentiment d'abandon, comme vous le dites, ça ressurgit à un moment. C'est-à-dire, quand le parent est malade, ça arrive au père du narrateur, il tombe gravement malade, il dit ne pas ressentir beaucoup de tristesse. Et il essaye de se détacher, sauf qu'il dit une phrase très juste, Anthony, et dit « L'enfant est attaché à son bourreau et lui pardonne par amour, par devoir inconscient, préférant se renier plutôt que de condamner. »
Alors,
et il parle de son père, là.
Mais ça, je le dis pas quand il est à l'hôpital.
Non.
Ah, oui, mais c'est important, parce que il ne ressent pas cette douleur, cette souffrance, parce qu'il est très amoureux. Et donc, pas parce que, pour ce que vous venez de dire, c'est parce qu'il est très amoureux, et quelque part, justement, cet amour va tellement le porter, et l'emporter aussi, que c'est, il va se perdre. Et c'est vrai que parfois, quand on est amoureux, et surtout dans une histoire comme celle-ci, les douleurs qu'on peut rencontrer, les problèmes du quotidien semblent tellement,
superflu.
Inexistant presque. Et là, il s'interroge, il se dit, mais c'est vrai que je ressens pas, à un autre moment, sans Luna, j'aurais été dévasté.
Oui,
et là, son amour me porte.
Oui, mais il met un mouchoir dessus, disons les choses.
Comment ?
Il met un mouchoir dessus. Ça nous arrive, ça, quand on a une situation dramatique et qu'on a envie de vivre sa vie, on essaye de pas penser à ce moment difficile qui est en train de se produire.
Mais l'amour vous porte.
Et quand,
au-delà
de tout. Mais au-delà de ça, moi, je pense que votre personnage, il a ce poids sur la conscience. Il se dit, je dois m'occuper aussi de ma famille, je dois m'occuper de mes parents, mais j'ai cette vie à vivre, cette vie amoureuse, comme vous dites. Ne me regardez pas comme ça.
Non, alors c'est marrant, oui, bah après chacun...
J'interprète, peut-être.
Interprète les choses, oui. Je trouve pas qu'il s'en occupe tant que ça.
Non, justement.
Voilà,
c'est
non,
pour
lui,
ça
il vit
qu'il
sa
a,
vie, mais d'ailleurs...
Il a mauvaise conscience.
L'histoire, elle est sur la relation amoureuse, sur les rapports toxiques et l'emprise, sur cette histoire d'amour qui est magnifique quand même, parce qu'au départ, si vous voulez, ils se révèlent l'un à l'autre. Et ils atteignent des sommets dans ces connexions. Et à un moment, évidemment, ça va vriller.
Alors, on va y venir. Avec cette emprise, on va laisser la parole à nos libraires, Anthony Delon, qui ont lu votre premier roman.
J'ai rien compris à ce que vous m'avez dit, là, tout à l'heure.
Mais je vous le résume très vite, avant de donner la parole à Mathieu en France, parce que je pense qu'il est sur le même point de vue que moi.
Qui ?
Mathieu Colombe, qui est notre libraire en France, à Aix-en-Provence. Ce que je vous disais, c'est que quand on a un parent qui nous a maltraités, psychologiquement ou autre, que ce parent-là tombe malade, ou en tout cas se détache de nous. On a ce sentiment, cette pulsion, et vous le dites d'ailleurs avec cette phrase, l'enfant est attaché à son bourreau, il pardonne par amour, par devoir inconscient. On a ce sentiment et cette responsabilité de s'en occuper. Et votre personnage, il n'y arrive pas. Mais il a ce poids sur la conscience.
Non, alors,
non,
vous l'avez mal perçu.
Bon, mais vous avez compris, là.
Oui, j'ai compris ce que vous venez de me dire.
Allez, ok, on va voir Mathieu
même
en France.
Si je pense que c'est pas lié.
D'accord.
Mais j'ai compris.
C'est mon interprétation. Mathieu Colombe pour la France. Qu'en pensez-vous?
Eh ben alors, moi déjà, j'ai peur de pas être objectif parce que certains sujets abordés sont vraiment très proches de moi. Par contre, on peut objectivement dire que vous avez un vrai talent de conteur. Et j'ai d'ailleurs particulièrement apprécié votre écriture des dialogues. De plus, votre manière de parler de l'emprise est, je trouve, absolument juste, tellement que certaines réactions du narrateur peuvent paraître incompréhensibles au commun des mortels. Il va sans dire que j'ai énormément apprécié vous lire, et même si Bastingage n'est pas exempt de menus défauts, il a su faire résonner indéniablement quelque chose en moi.
Je peux lui parler, je peux
dire
quelque chose.
Oui.
Ce qui me fait plaisir, c'est que ça a eu une résonance chez vous. Parce qu'effectivement, j'explore aussi, ça pourrait être un livre de développement personnel, parce que j'explore les mécanismes de l'emprise.
Oui.
Et vous savez, si j'avais pas écrit ce livre, et si je le lisais, je me dirais, mince, ça peut m'arriver à moi aussi. Et peut-être qu'effectivement, vous êtes identifié à ce personnage, parce que il y a beaucoup de niveaux de relations comme celle-là.
Alors, la Belgique, Nathalie Clairin, qu'en pensez-vous ?
Oui, eh bien, écoutez, moi, je suis entrée vraiment très facilement dans votre roman, et je l'ai lu d'une traite. Dans une écriture vraiment efficace, vous arrivez à faire tout de suite une lumière impitoyable sur ce paradoxe de l'attachement malgré la toxicité. C'est un cri vraiment fulgurant et ça m'a beaucoup touchée.
Madame, merci.
Voilà.
Et si je puis dire quelque chose aussi, c'est que monsieur a parlé tout à l'heure des dialogues. Et c'est vrai que j'ai demandé, quand j'ai commencé le livre, l'autorisation à mon éditeur, de mettre autant de dialogues.
Il y en a beaucoup,
oui. J'ai trouvé que ça donnait une couleur supplémentaire et qu'on rentrait, comme au cinéma, plus facilement dans l'histoire avec
des
dialogues.
C'est vrai qu'on pourrait imaginer que ça va être adapté au cinéma, parce que vos dialogues, Anthony, si je peux mesurer un peu, sont parfois un peu légers. Mais je crois que c'est volontaire, parce qu'il y a une succession de dialogues, il y en a beaucoup, et parfois, c'est un peu léger, parfois.
Dire...
Bah, c'est un peu simple.
Dialogues cinéma.
Oui, voilà.
Donc
vous allez l'adapter au cinéma ?
Bien sûr.
D'accord.
J'ai pensé film en le... Mais vous voyez, les dialogues, ils ont surtout donné de la couleur.
Oui. Alors vous décrivez très bien ce que peuvent vivre certains hommes, Mathieu le disait, qui sont sous emprise, coincés entre l'amour et la gestion d'une femme psychologiquement instable. Certains sont frappés, harcelés au quotidien, mais ils n'arrivent pas à réagir pour se protéger. Comment en arrive-t-on là, Anthony Delon ? Si vous avez exploré ce mécanisme-là,
Il y a le déni. Il y a des mécanismes inconscients comme la culpabilité. Il y a aussi le syndrome du soignant qui vient de l'abandon, qui vient du manque d'amour.
Il joue ce rôle-là, oui.
Et c'est de tout ça dont je parle. Et effectivement, comment en arrive-t-on à accepter l'inacceptable ? C'est ce que je dis, je crois. Ben, c'est la grande question. C'est comme, je prends exemple aussi sur ces femmes battues qui trouvent toujours... il paraît qu'il faut sept séjours dans des lieux spécialisés pour arriver à décrocher. Comment, tout d'un coup, accepter l'inacceptable et pardonner ? Mais pardonner parce que, effectivement, quand on entend, on se dit, eh ben, il y a l'espoir, il s'est excusé, il est gentil, et puis ça recommence.
Et ça recommence. Ça recommence.
Ouais. Mais parce qu'on veut pas voir. Et voilà, c'est plus facile de l'écrire que d'en parler, mais c'est dont je parle dans ce livre.
Philippe sera confronté à la mort annoncée de son père et il dit à ses enfants « C'est compliqué d'attendre le départ de quelqu'un. Quand l'autre souffre, tu peux être hanté par des sentiments ambivalents, difficiles à accepter, comme le désir de voir l'autre partir. »
Oui. Là, pour le coup, je l'ai expérimenté par le passé avec ma mère, qui était malade d'un cancer très violent, puisqu'elle a eu un cancer de la tête du pancréas. Et je l'ai vue souffrir. Et là, on est pris effectivement d'un sentiment ambivalent de cette personne souffre et j'aimerais que sa souffrance s'arrête et donc j'aimerais qu'elle s'en aille. Et en même temps, voilà, pour qu'elle soit soulagée et en même temps, bah, le désir de la retenir parce que c'est sa mère et parce que c'est quelqu'un qu'on aime. Et donc, c'est très compliqué. On peut se remettre en question et se poser pas mal de questions parce que tout d'un coup, on peut se dire, mais je voudrais que ça s'arrête. Et puis aussi, pour soi. Parce que la douleur de l'être aimé nous fait du mal à nous. Donc on voudrait qu'il soit libéré, mais on aimerait se libérer soi-même. Et là est l'ambivalence. Et c'est ce que le personnage dit à ses enfants.
Ouais. Il est à bout de souffle, hein, ce personnage-là. Entre l'emprise, cet amour fou, cette maltraitance, hein, on peut dire.
Mais vous savez, il n'a pas eu de déboire amoureux avant. Il a eu une femme.
Oui.
Et d'ailleurs, il le dit.
Oui, ça s'est bien passé avec elle.
D'ailleurs, au début du livre, c'est-à-dire du film, son ami vient le chercher.
On n'y est pas encore,
pour l'amener en soirée.
On n'y est pas encore.
Et il lui dit, il pense à cette femme avec qui il s'est séparé. Il se rappelle même plus pourquoi.
Oui.
Tellement. ils ont gardé des bons rapports. Et c'est vrai qu'il disait, elle était beaucoup moins exigeante. Notre relation était beaucoup moins exigeante. Dans le désir de l'autre.
Et pourquoi il est dans
et
les cordes?
Et la nécessité de l'autre.
Pourquoi il est dans les cordes alors? Parce que ce titre, Bastingage, c'est pas pour rien, Anthony.
Parce qu'il a la tête sous l'eau. Il est dans les cordes parce que cette femme, Luna, c'est pas un hasard, Luna comme la lune, il y a le versant éclairé et le versant sombre, le renvoie. En fait, si vous voulez, elle vient gratter sur la pierre tombale. Elle le renvoie à ses propres, à ses peurs, à ses blessures, à ses angoisses, et elle l'emporte. Et lui, il est construit, et c'est ça qui est déroutant, c'est qu'en fait, on peut être construit, et tout à coup, tomber sur quelqu'un qui va réveiller des blessures de l'enfance.
Merci beaucoup, Anthony Delon. Votre roman Bastingage a séduit nos libraires, donc il est paru aux éditions Fayard. Je vous souhaite bonne chance pour ce livre.
Merci.
Et bon courage
Merci
aussi
beaucoup.
Dans votre vie personnelle. Merci,
Merci,
Anthony.
Tout va bien.
Dans un instant, une séquence jeunesse avec notamment les Suisses Émilie Boré et Vincent Di Silvestro. Avant cela, on écoute le tout nouveau titre du groupe Graines Sémées dans la librairie francophone.
Pour nous danser, Maloïa gazé, Maloïa gazé, pour nous danser, Maloïa gazé, salé gazé, pour nous danser, Maloïa gazé, Maloïa gazé, pour nous danser, Maloïa gazé, salé gazé, idanga da ringa 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 idang, idanga da ringa 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 idang, Maloïa gazé, salé gazé. Maloïa gazé, salé gazé, Maloïa gazé, salé gazé, Maloïa gazé, salé gazé. Sal le gazé, Maloïa gazé, 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 Sal le gazé, Ma gazé, sale gazé, pour nous danser Malouya gazé, sale gazé.
Groupe réunionnais Graines Sémées avec Maloya Gazé.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
La chronique des libraires seconde partie, une chronique consacrée aux livres jeunesse. Avec tout d'abord un coup de gueule en Belgique, Nathalie Clairin.
Oui Emmanuel, bah, écoutez, moi en général, paraît-il, je suis un peu un modèle de patience, mais alors là, dans le
ça
monde...
Ça a l'air, c'est vrai.
Oui, mais ici, en l'occurrence, dans le monde des parutions jeunesse, il y a quelque chose qui m'énerve depuis un petit temps, et ce sont les ouvrages en anglais traduits en français, mais dont on maintient le titre en anglais.
Mmh, c'est vrai.
Vous voyez, du style The Roommate Experiment, This Book Kills, alors on se sent avalé, et c'est déplaisant.
C'est honteux. C'est honteux pour la francophonie. Avis aux éditeurs, arrêtez avec ces titres en anglais. Soit vous le laissez en anglais, soit il est complètement en français. Et puis, avis aussi aux auteurs français qui écrivent des titres en anglais. Bref, on s'en sort pas. Merci Nathalie, merci beaucoup. Un coup de cœur en France, Mathieu Colombe, dans le rayon des livres jeunesse donc.
Et oui, pour une fois, et c'est pour un très grand et beau choix de poème de Paul Éluard, qui est assez éclectique, hein, parce qu'il aborde à peu près tous les thèmes, cher à Éluard, hein, guerre, paix, amour, animaux. Donc ça peut être une très belle initiation déjà à la poésie pour les enfants. Et ensuite, les illustrations sont absolument fantastiques. Elles sont changeantes au gré des poèmes. Il y a des choix qui sont extraordinaires de fait, je trouve. On pense en plus à l'époque des surréalistes. Enfin, vraiment, c'est le genre de livre jeunesse à offrir à vos enfants, parce que comme ça, vous pourrez leur piquer.
Voilà. Un livre de Paul Éluard, illustré par Bruno Gibert aux éditions Seuil Jeunesse. Merci Mathieu.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Émilie Boré.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Vincent, parce qu'on dit Vincent, c'est votre nom d'artiste.
C'est ça, bonjour.
Vous êtes les auteurs d'une bande dessinée qui fait sensation dans les librairies suisses. Jean Blaise est paru à La Joie de Lire, maison d'édition helvétique. Le premier paru en 2022 raconte la vie d'un chat qui se prend pour un oiseau. Il s'est mis dans la tête de se faire accepter des oiseaux et de vivre comme un oiseau, mais les oiseaux ne le voient pas comme ça. Pourquoi fait-il ça?
Pourquoi fait-il ça, Jean Blaise? Mais parce que Jean Blaise est un drôle d'oiseau, justement, qui ne se sent pas forcément chat. Il aimerait chanter, il aimerait voler, et il se rend assez rapidement compte que son corps n'est pas tout à fait adapté pour la chose. Et dans le fond, il essaye de convaincre les oiseaux qu'il peut faire partie des leurs. Et donc, l'histoire de Jean Blaise, c'est vraiment cette lutte intime comme ça pour essayer de devenir quelqu'un d'autre.
Oui, c'est ça. Et il y a un vautour qui lui explique, Vincent, que lui ne peut pas ronronner en tant que vautour. Il ne peut pas faire ses griffes sur le canapé, ni même lécher son derrière, et surtout, le vautour peut voler, lui. Quel message voulez-vous faire passer aux enfants avec ce livre?
Je sais pas, je pense que l'idée, c'est de s'accepter, déjà,
ouais.
Tel qu'on est, avec ses différences. Donc, c'est plutôt un message d'ouverture et d'acceptation.
Et puis, il y a le psy aussi. Parce qu'il va arriver dans la maison d'un psy. Et le psy va lui dire, ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est que vous êtes un chat, mais que vous avez un tempérament d'oiseau. Et lui dit, finalement, ça peut être normal. Il faut vivre comme ça, comme bon nous semble.
C'est ça.
Et on peut quand même préciser que le psychiatre habite à Comme on veut. Il habite dans la ville de Comme on veut. Oui. Et effectivement, l'idée, c'est de dire, bon, dans le fond, vous pouvez avoir un tempérament d'oiseau dans un corps de chat et ce n'est pas un problème. Voilà, donc ce personnage de psy est un peu une sorte de personnage un peu moins médical que socratique, qui aide un peu à faire accoucher comme ça la vérité, ce qu'on ressent en soi, quoi.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette métaphore, elle peut nous faire penser à ces ados qui veulent changer de genre. Vous savez, on en entend beaucoup parler. Leur dites-vous que l'on doit rester comme on est, mais que l'on peut se comporter comme on veut sans renier son corps de naissance?
Voilà, c'est-à-dire que moi, je n'oserais bien sûr rien dire à quiconque. Oui. Et je crois que c'est aussi le cas de Jean Blaise qui fait sa petite vie dans son coin, dans le fond.
Vous n'osez pas dire.
Je n'ose pas le dire parce que j'ai pas d'avis pour les autres. Pour moi, en tout cas, je pense que, et c'est ce que j'aime dans la psychanalyse, le côté magique qu'elle peut avoir, c'est dans le fond, pas de changer le monde, mais de changer notre regard sur le monde. Et dans le fond, plutôt que le monde, au lieu que de faire adapter le monde à nous, c'est de nous adapter au monde. Mmh. Je ne dis rien de plus, et de manière très douce, j'espère que c'est un message qui parle à des gens.
Oui, on peut interpréter. Peut... Ouais. Dans le deuxième volet, donc, il vient de sortir, Jean Blaise tombe amoureux. Il est resté avec son identité d'oiseau, il prend même des cours de chant, mais un jour, il rencontre un poisson. Racontez-nous cette rencontre, Vincent.
Alors, Jean Blaise attend, comme tous les matins, sa professeure de chant, qui lui donne des cours. Et un jour, elle ne se présente pas. Donc, il décide de monter dans le salon de musique, pratiquer ses gammes en solitaire. Et là, sur le piano, il y a un bocal avec un poisson rouge à l'intérieur qui s'appelle Tsubasa et qui vient du Japon. Voilà. Et c'est le début d'une grande histoire d'amour entre ces deux personnages.
Oui. Et l'obstacle pour une relation amoureuse, qui est double, parce que à la fois, ils ne vivent pas dans le même élément et les chats mangent les poissons.
Oui. Il y a toute une scène d'ailleurs à ce sujet quand après une nuit de rencontres et de discussions, Jean Blaise se réveille le matin déprimé, il parle au psy et il prend conscience que cet amour est impossible et le psy va l'amener à réaliser qu'en fait toutes ces barrières qu'il a elles peuvent sauter et que cet amour peut se vivre finalement.
Le chat Jean Blaise et le poisson Tsubasa disent ne pas comprendre ce qui leur arrive. Tous les deux s'observent, vous dites ils sont médusés, joli jeu de mots. Beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des amours impossibles. Comment surmonte-t-on cela, Émilie Boré ?
Les amours impossibles.
Ouais. Qu'est-ce que vous
dites ? Moi, je m'en suis jamais remise.
C'est vrai ?
Des amours impossibles.
Vous en avez connu vous-même ?
Je pense que, je souhaite à tout le monde d'en avoir connu.
C'est vrai ?
Mais oui, parce qu'en
vous
fait,
souhaitez ?
Je le souhaite parce que dans le fond, c'est une manière de toucher le fond, de rebondir et après d'inventer des histoires pour se consoler.
Qu'est-ce que c'est un amour impossible ?
Un amour impossible.
Là, c'est clair parce que c'est pour les enfants.
Oui, les amours impossibles, ça peut être des différences sociales, des différences d'âge, des différences de. On voit parfois des couples très très différents qui ça peut parfois être des barrières insurmontables, mais je pense dans le fond que rien n'est insurmontable. Alors voilà, c'est sûr que là, on est dans quelque chose de démesuré, un poisson et un chat. C'est sûr que c'est pas. Ça paraît très. Mais grâce au dessin de Vincent, tout ça paraît extrêmement simple.
Oui, oui. Ça ouvre les portes.
Ça ouvre les portes, c'est-à-dire qu'on peut pas s'imaginer jusqu'à ce qu'on le dessine et ça devient possible.
Bon, on va voir avec nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre bande dessinée pour les enfants. Je tiens à préciser, c'est une BD, mais plutôt pour les enfants, à partir du moment où ils savent lire.
Oui, entre 5 et 105 ans.
Oui, c'est ça, exactement. La Suisse, Alexandre Dimitrievitch, vous avez 102 ans, je crois. Est-ce que ça passe chez vous ?
Oui, effectivement, c'est une sacrée quête identitaire pour Jean Blaise. C'est-à-dire que les dessins sont drôles à souhait, c'est très efficace. La crédulité de cette boule de poils et surtout son aplomb à vivre sa vie coûte que coûte m'a vraiment plu. Dans un monde qui ne nous tolère que dans la limite du raisonnable, je dirais que ce livre jeunesse est une vraie bouffée d'air frais.
Merci Alexandre. Le Canada, avec notre adolescente de service, Josiane Etourneau.
Oui, j'ai 3 ans et demi. En fait, c'est un album qui est adorable, qui se lit évidemment comme un charme, mais au-delà du charme, c'est une histoire qui nous parle de façon très touchante et ingénieuse du pouvoir presque magique du sentiment amoureux et de l'ouverture à laquelle il nous convie avant tout. Et il fait mouche, ce conte, tant du côté du texte que celui des illustrations. Alors, bravo!
Bravo à vous. Ces situations avec cet amour impossible, est-ce qu'elles visent à dire aux jeunes ados qu'ils peuvent aimer qui ils veulent, sous-entendu une personne du même sexe qu'eux ? Est-ce que c'est ça le message aussi ?
Le message, encore une fois, c'est lisez-y ce que vous voulez. Alors ça parlera peut-être aux adolescents qui, dans ce cas, mais aussi à un vieux papy qui souhaite aimer, je sais pas, une vieille mamie, mais un tout petit peu moins vieille que lui. Je ne sais pas quoi dire. De...
Anthony, que dites-vous ?
Vous cherchez la bagarre aujourd'hui.
Mais non !
Il cherche la bagarre, il cherche la bagarre.
Mais non, je pose
des
questions.
Scandale,
mais pas du tout, je pose des questions. Je pose des questions, je m'interroge. C'est, ça fait partie du débat aussi.
Et assez naïf. Commencez par le chat qui se lèche les fesses.
Ah bah ça, c'est dans le livre, hein. Je suis désolé. Hein.
Oui, mais c'est ce que vous avez choisi.
Ah mais oui, mais c'est ce que
je... Le graveleux, toujours, toujours.
Allons-y.
Mais vous avez changé.
Les enfants.
C'est une cabale, qu'est-ce qui se passe? C'est une caméra cachée.
Non, mais c'est bon. Bien comme ça.
Faut-il dépasser les conventions dans les amours a priori impossibles? C'est un peu la question qu'on se pose tout le temps, parce que c'est angoissant. C'est vrai, quand on découvre ça, votre chat, il est angoissé. Il est face au psy, il lui dit « Mais j'ai passé une soirée magnifique, mais je suis amoureux d'un poisson !» Et il lui dit « Mais alors, qu'est-ce que ça peut faire ?»
Et toi, Jean-Blaise?
Ouais.
Dans le fond, c'est ce qu'on en fait. Et toi, et vous, Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous?
Ouais.
Et peu importe ce que disent les autres, tant qu'on vit tranquillement, à comme on veut, voilà, c'est, il n'y a pas de prosélytisme chez Jean Blaise, en fait. Il est, j'en parlais tout à l'heure, c'est une lutte assez douce et intime qui ne se voit pas pour les autres, elle est pour lui. Et je crois que c'est ce que j'aime aussi dans cette idée que, voilà, de la différence, on est tous différents dans le fond, on est tous singuliers et on cherche chacun à faire son nid.
Oui. Et pourtant,
chat ou oiseau.
Vincent, c'est vrai que vivre en toute liberté, cela semble paradoxalement plus compliqué qu'avant. Non mais c'est vrai, notre société ne tolère pas tant que ça. Les différences, et surtout dans les relations amoureuses, dans les relations que vous décrivez.
Alors on est dans une société qui est de plus en plus clivante.
C'est un vrai paradoxe.
Extrêmement, oui, c'est vrai. Mais je pense, j'ai l'impression de mon entourage, de mon petit monde à moi, qu'on va plutôt dans le bon sens, même si faut faire attention.
Boubacar Boris Diop, vous avez vécu un amour impossible, vous ?
Ben, en tout cas, j'ai envie de lire ce livre.
Répondez à la question, avez-vous vécu un amour impossible ?
Ben, non, mais comme on vient de le dire, je pense que tout le monde est passé par là.
Ouais.
Impossible, peut-être, c'est trop dire.
Ouais.
On va dire compliqué. Difficile, etc. Ouais. Mais ce n'est jamais tout à fait impossible si le sentiment est profond. Hein.
Voilà. Anthony Delon a l'air d'accord avec vous, parce que tous les amours qu'il a vécu,
impossible n'est pas français, non.
Voilà. Bon, merci Émilie Boré, merci beaucoup,
merci
Vincent. Jean Blaise, Tombe amoureux, est paru aux éditions La Joie de lire. Il y a aussi Jean Blaise, le chat qui se prenait pour un oiseau, sorti en 2022, toujours disponible. Merci à vous. Pour conclure, le son de l'outre-mer avec l'artiste guyanaise Canel Mona Charles.
Le
da de da da de 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 de.
Un extrait de Gilia de la Guyanaise Canel Mona Charles. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous à la réalisation Stéphane Combe avec Loïs Moreau, Thierry Dupin à la prog musicale. Merci Boubacar Boris Diop. Merci Anthony Delon. À très bientôt.
Merci.
À la rédaction Jean-Philippe Véret, Christophe Magère avec Constance Gonin et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, nous serons donc avec Laurent Godet, le chanteur comorien Elias qui jouera dans notre studio, Lydie Salvaire et Nicolas Pagnol pour les 50 ans de la mort de Pagnol. Bonne semaine à vous, bon week-end à tous. Et n'oubliez pas la rediffusion de la librairie francophone à 1h du matin avec le bonus créole de Boubacar Boris Diop. À suivre, Affaires sensibles autour de la Coupe du Monde de 1966 avec la Corée du Nord.